Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 30 juin. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le blues des députés de la majorité après l'échec de La République En Marche au municipal. Certains remettent en cause la stratégie d'alliance avec la droite, d'autres le sens même de leur engagement. Nous allons les entendre après les autres titres, Agnès.
La centrale nucléaire de Fessenheim a définitivement cessé de fonctionner cette nuit. 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers, c'est trop peu, estiment les syndicats en cette nouvelle journée d'action nationale des soignants. Nous irons au Portugal où les autorités reconfinent les psychotropes qui pourraient jouer un rôle contre le coronavirus. Et puis c'est souvent le cauchemar des enfants, les cahiers de vacances ont plus que jamais le vent en poupe.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
C'est quoi être noir en France? Début de réponse avec un film qui sort la semaine prochaine, Tout simplement noir, une comédie intelligente, ultra drôle, qui critique par l'absurde à la fois le racisme et le communautarisme. On reçoit le comédien Farid qui joue dedans, qui est l'une des étoiles montantes du stand-up en France. Il sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, nous recevons dans le grand entretien de la matinale la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. C'est un hasard du calendrier qui tombe à pic. Au lendemain de la déferlante verte au municipal, Emmanuel Macron recevait hier les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Une séquence verte savamment orchestrée dans les jardins de l'Élysée pour acter la quasi-totalité des propositions de la Convention. Mais c'est passé un peu vite sur le choc provoqué par les mauvais résultats de La République En Marche au municipal. La réunion des députés de la majorité ce matin à l'Assemblée s'annonce houleuse. Laurence Perron.
On n'a pas péché par défaut d'écologie, estime la plupart des députés du parti présidentiel, rappelant que la fin de Notre-Dame-des-Landes, l'arrêt de Fessenheim, la Convention citoyenne pour le climat, c'est sous ce mandat que ça aura été fait. Non, c'est plus grave, concède sans langue de bois Sacha Houlier, député de la Vienne, proche du président.
D'abord, on a perdu, il faut assumer, il faut dire que c'est une défaite. La stratégie du coucou, qui était celle d'aller avec des partis politiques traditionnels, c'était pas une bonne idée. Ça appelle surtout le parti à se remettre au boulot.
Sans filtre, là, et il l'assume, le député du Rhône, Bruno Bonnel, très en colère.
On paye aujourd'hui, nous. C'est que les Verts, ils ont un sens, c'est sauver la planète. Le RN, il a un sens, c'est on est bien chez nous. Nous, on n'a pas de sens. 40 ans chez l'entreprise, j'ai eu des moments forts, j'ai eu des mauvais moments. Je me suis jamais fait coincer par des mecs dans des rues en me disant vous êtes des bandes de salauds, dès qu'on pourra, on vous fera la peau. C'est jamais arrivé, cette violence. Et si on reste sur la même ligne, on voit bien où elle nous mène. Elle nous mène à une déception des Français qui comprennent pas la différence entre la vision du président et les actes. On a fait non pas une politique jupitérienne comme annoncé, mais jupéienne. Ça commence pareil, mais ça finit pas pareil. On a fait JUP. Et puis on s'est arrêté au P.
Plus qu'une faillite écologique, c'est une crise de sens qu'incrimine la plupart de ces élus, blessés de se voir relégués aussi vite dans l'ancien monde.
Et comme les planètes décidément semblent alignées pour les écologistes, la centrale de Fessenheim a définitivement cessé de fonctionner hier soir à 23h. Le second réacteur de la plus vieille centrale nucléaire française a été débranché. Une vingtaine de salariés s'étaient donné rendez-vous sur le parking de la centrale pour partager leur émotion. Un peu plus tôt dans la journée, ce sont les anti-nucléaires qui avaient eux organisé une croisière sur le Rhin, à bord notamment Michèle Rivasi, députée européenne écologiste.
Depuis 2012, on attendait sa fermeture puisqu'elle avait été annoncée par François Hollande et que là, enfin, elle ferme après 43 ans de fonctionnement, énormément de pépins et en plus c'est une centrale très à risque parce qu'elle est très mal située dans une zone sismique en dessous du canal du Rhin et que donc on peut se retrouver dans la même situation qu'à Fukushima où il peut y avoir une inondation et un manque de refroidissement du cœur. Donc pour moi, c'est un moment fort et j'espère que c'est le début de la fermeture de 12 autres centrales d'ici 2035.
Propos recueillis par Patrick Janton et il faudra 15 ans pour démanteler la centrale de Fessenheim.
Il est 7h04, nouvelle journée d'action des soignants à Agnès, alors que s'achève à la fin de la semaine le Ségur de la Santé.
Et lors des négociations hier, le ministre de la Santé a proposé une enveloppe de 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Les syndicats demandaient 7 milliards, d'où la grosse déception d'Olivier Milleron. Il est porte-parole du collectif Interhôpitaux.
Les deux grands problèmes de l'hôpital public en ce qui concerne les médecins, c'est le salaire des jeunes médecins. Et puis il y a un vrai différentiel de salaire entre les médecins du public et du privé. Et avec une telle enveloppe, on va même pas avoir le début d'un commencement d'un rattrapage des salaires de l'hôpital par rapport au privé. Quand on voit la façon dont l'hôpital est traité depuis des années, la façon dont pour les dirigeants depuis des années, on est un coup et pas un bénéfice pour la société, quand en plus il y a eu les promesses qu'il y a eu au moment du Covid, de ne pas tenir les engagements, c'est pire que tout. Ça va être vécu comme une trahison, oui.
Le porte-parole du collectif Interhôpitaux avec Audrey Morellato. Des manifestations sont donc prévues aujourd'hui à l'appel des syndicats et collectifs de soignants. À Paris, départ à 14h du Val-de-Grâce, direction le ministère de la Santé. Des dizaines de manifestations sont également annoncées en région. La lutte contre le virus est loin d'être finie, a répété hier l'Organisation mondiale de la Santé. Ainsi, au Portugal, pourtant considéré jusqu'ici comme le bon élève dans la lutte contre le Covid-19, plusieurs foyers sont apparus ces derniers jours à Lisbonne. Les autorités ont donc décidé de reconfiner à partir de demain et pour 15 jours 700 000 habitants de la capitale portugaise où s'est rendu l'envoyé spécial de France Inter, Omar Waman.
Dans le quartier populaire de Santa Clara au nord de Lisbonne, on se prépare à un reconfinement dans l'inquiétude. Elena, gérante d'un salon de coiffure.
Nous sommes déjà restés très longtemps à la maison sans travailler. Je n'ai reçu aucune aide de l'État. J'espère que je n'aurai pas à fermer de nouveau. Ce serait vraiment triste.
La décision de reconfiner une partie de la population a été prise après un relâchement qui s'est soldé par une augmentation ces derniers jours du nombre de cas. Isabelle, une Française installée à Lisbonne depuis 20 ans.
Moi, j'ai remarqué depuis qu'on a été déconfiné que on va dans les parcs, tout le monde est ensemble, dans les bars, tout le monde est ensemble, sans masque, dans les plages, le relâchement a été partout.
Et pour endiguer la propagation du virus, les autorités ont décidé, parallèlement à ce reconfinement ciblé, de rétablir plusieurs restrictions, comme la fermeture à 20h des bars de la capitale afin d'éviter les attroupements. Des mesures saluées par Fernando Nobre, médecin et directeur d'une ONG humanitaire.
À mon avis, absolument raison. Et c'est une manière d'isoler un foyer infectieux et empêcher qu'il se propage et qu'il puisse donner lieu à une deuxième vague. C'est ça la crainte que tout le monde a. D'une deuxième vague.
Une situation qui inquiète le gouvernement portugais au plus haut point alors que débute la saison estivale. Lisbonne, Omar Waman, France Inter.
En France, 35 décès enregistrés à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. 8688 malades restent hospitalisés, dont 619 en réanimation. Et un groupe de personnes semble avoir été relativement épargné par la pandémie. Ce sont les malades en psychiatrie. Selon une étude publiée par une équipe de chercheurs de l'INSERM, de l'APHP, des universités de Lille, Paris, Créteil, et de la Fondation Fondamentale, les médicaments les plus utilisés en psychiatrie éviteraient les infections au coronavirus. Une hypothèse prometteuse, Véronique Julia, mais qui reste à confirmer.
Psychiatre à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et directrice de la Fondation Fondamentale, le professeur Marion Le Boyer a fait le constat dès le début de l'épidémie que les unités Covid réservées aux patients suivis en psychiatrie ne se remplissaient pas autant que les autres. On pensait qu'il y aurait une déferlante, dit-elle, car certains de nos patients peuvent avoir du mal à observer les règles de distanciation. Mais on a eu finalement très peu de monde. De là est venue l'idée de chercher à comprendre si les psychotropes, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les anxiolytiques, les régulateurs de l'humeur et même la nicotine, bref, tous les médicaments couramment prescrits en psychiatrie pouvaient expliquer le phénomène. L'analyse de la structure chimique de ces médicaments s'est révélée étonnante, Marion Le Boyer.
De fait, on a trouvé que toutes ces molécules avaient des ressemblances de leur structure chimique. Et ces molécules qui ont ces caractéristiques-là, on a retrouvé dans la littérature que soit elles ont de fait une activité antivirale, soit elles empêchent le virus de rentrer et perturbent le trafic des virus dans la cellule. Donc toutes ces actions-là pourraient être impliquées dans un effet protecteur contre l'entrée du virus dans la cellule.
Ce constat doit maintenant être confirmé par des tests in vitro qui sont en cours. On veut vérifier que ces médicaments agissent bel et bien sur le virus et mesurer si certains le font plus que d'autres. Ensuite, peut-être viendront les essais cliniques pour valider ou pas ce rôle préventif. Les antihistaminiques utilisés contre l'allergie et couramment prescrits en psychiatrie pour leur effet anxiolytique font partie eux aussi des médicaments testés.
Et puis la commission d'enquête de l'Assemblée sur la gestion de la crise sanitaire va entendre cette semaine quatre anciens ministres de la Santé et notamment Agnès Buzyn dès cet après-midi. Au chapitre judiciaire, la condamnation hier de François Fillon à 2 ans de prison ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. C'est l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon, condamnée à 3 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. 3 ans de prison également avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour Marc Joulot, maire sortant de Sablé-sur-Tarte. De Sarthe et et ex-députés. Tous ont fait appel. Les peines sont donc suspendues jusqu'au nouveau procès. Et puis une affaire de flic ripou en Seine-Saint-Denis. 6 policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention départementale ont été interpellés hier matin chez eux, placés en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. Ils sont soupçonnés, Emmanuel Leclerc, d'avoir racketté et volé des dealers.
On n'avait vraiment pas besoin de ça, vu le contexte actuel, confié furieux hier soir à un responsable syndical de la police. Le pire, c'est que ça se savait depuis un certain temps au sein de cette unité. Cette bande organisée en uniforme de policiers avait été ouvertement dénoncée, poursuit-il. Mais rien n'a vraiment bougé, pas de mutation accélérée. C'était apparemment devenu un système, c'est terrible, conclut-il, même s'il faudra voir l'ampleur de ce racket auprès des dealers. Et puis, il y a eu des précédents, d'autres casseroles pour cette unité. 6 autres agents avaient été placés en garde à vue après une bagarre l'année dernière avec un dealer à Saint-Ouen. Ces compagnies, créées à l'époque de Nicolas Sarkozy, sont censées traquer et empêcher les supermarchés de la drogue qui ont pignon sur rue. Hier, le préfet de police a menacé de passer cette compagnie de Seine-Saint-Denis au Karcher si des faits graves sont établis.
On l'a appris cette nuit, le vote par le Parlement chinois d'un projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, un texte vivement critiqué par les habitants de l'ancienne colonie britannique et par les puissances occidentales, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le contenu du texte n'est pas connu officiellement. Il est censé durcir la répression contre les indépendantistes hongkongais, avec notamment des peines pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Enfin, souvent entamés, jamais finis, ce sont les cahiers de vacances qui devraient connaître cet été un succès sans précédent pour rattraper une année chahutée. Et se donner bonne conscience, de nombreux parents devraient céder à cette manie bien française. Il s'en vend chaque année 4,5 millions d'exemplaires. Cécilia Arbona.
C'est un rituel qui traverse les générations, que l'on parte en vacances ou pas.
Tu prends un cahier de vacances, tu te sentiras plus en confiance l'année prochaine.
À 11 ans, Augustin ne partage pas franchement cet avis.
J'ai rien à dire, c'est obligé. Je sais que j'aurais du mal à les faire parce que je vais être souvent en train de jouer.
Moi je prends pour ma fille qui est en 6e parce que je trouve que c'était un peu léger cette année.
Il y a aussi les petits chanceux comme Thiago, 7 ans. D'accord pour un cahier de vacances, mais avec des jouets en prime.
J'ai eu des avions en maquette, une voiture Playmobil. Mobile en télécommande.
J'ai pris français, maths, multimatière.
L'été 2020 devrait figurer dans les annales en termes de chiffre d'affaires. Carola Strang, directrice d'édition chez Nathan Jeunesse.
C'est un engouement assez exceptionnel puisqu'on est à des ventes pour l'instant multiplié par 2 par rapport à l'année dernière.
À la FNAC de Boulogne-Billancourt, le cahier de vacances est pour la première fois un achat solidaire. Saba Benassef, responsable adjointe.
Le Secours Populaire est venu présenter son projet. On a été emballés. En fin de compte, le client qui vient achète un ou plusieurs cahiers de vacances et on le collecte. Et je pense que ça va aider beaucoup d'enfants.
Une nouvelle forme de don est peut-être née avec ce cadeau utile pour anticiper une drôle de rentrée.
Voilà donc Nicolas, les cahiers de vacances pour ceux qui en redemandent après 2 mois d'école à la maison.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.